Merci d'avoir choisi Europe 1. Il est 22h. Tout de suite, le journal Isabelle Millet.
Moi, je souhaite qu'elle soit le plus calme possible. Il y a plusieurs revendications qui se feront samedi. Mais il faut que ça puisse se faire dans le calme.
L'appel d'Emmanuel Macron à la veille d'une journée à haut risque pour l'exécutif sur le plan sécuritaire. Plusieurs manifestations prévues dans la capitale auxquelles s'ajoutent les journées du patrimoine. À Paris, 7500 forces de l'ordre seront mobilisées. Aujourd'hui, les jeunes du monde entier étaient, eux, mobilisés pour la planète.
Aujourd'hui, c'est les jeunes. Demain, il faudra que ce soit tout le monde. Pour tout le monde dans la rue, pour le climat, pour changer les États, pour changer les sociétés, pour changer l'esprit des gens, parce que c'est une urgence.
De Sydney à New York, en passant par Paris, des milliers de collégiens et lycéens ont séché les cours aujourd'hui et défilé pour le climat. La révélation d'essais cliniques illégaux sur des malades de Parkinson et d'Alzheimer. Europe 1 a retrouvé en exclusivité une femme qui a été approchée pour ses essais thérapeutiques. On lui a même réclamé de l'argent. 3 mois de prison avec sursis requis contre Jean-Luc Mélenchon pour les incidents qui avaient émaillé la perquisition au sein de la France insoumise. Les Parisiens vont encore devoir marcher. Nouveau préavis de grève à la RATP à partir du 5 décembre. Mouvement cette fois illimité. J-1 pour l'entrée en lice des Bleus au championnat du monde de rugby au Japon.
Il faut juste être derrière notre équipe de France et la soutenir à fond.
Un adversaire sérieux pour les Français demain. Ils retrouvent l'Argentine. Notez qu'à 22h20, Emmanuel Duteil sera avec Patrick Houilly, le directeur marketing du Coq Sportif. C'est l'équipementier du 15 de France. Le foot, match avancé de Ligue 1. Ça se passe en ce moment. Sous vos yeux, Patrick Müller, Strasbourg-Nantes, domination nantaise.
Effectivement, 1-0 en faveur des Canaries. But signé Koulibaly à la 27e minute. Et l'on approche l'heure de jeu ici à Strasbourg.
Patrick Müller, que l'on retrouvera évidemment plus longuement dans le courant de ce journal. La météo, la journée de demain sera ensoleillée sur la moitié nord, l'Alsace, l'Île-de-France, la Normandie, la Bretagne. Il fera même chaud. Tandis que sur le sud, les nuages et la pluie domineront. Du coup, les températures vont baisser. Pour dimanche, personne ne sera épargné. Ce sera une journée pourrie pour tout le monde. Désolé. Ne manquez pas les prévisions complètes d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal.
Europe 1.
C'est donc une journée à haut risque qui s'annonce demain. En prévision, 7500 membres des forces de l'ordre seront mobilisés à Paris en vue des différentes manifestations prévues dans la capitale. Celle des Gilets jaunes, une autre contre la réforme des retraites, plus la marche pour le climat. Manifestations qui coïncideront avec les journées du patrimoine. 7500 policiers, c'est autant que le 1er mai dernier, Guillaume Bier.
Oui, c'est ce que nous a dit le préfet de police. Ce sera même encore un peu plus que le 1er mai avec une 60aine d'unités de forces mobiles déployées, soit environ 5000 CRS et gendarmes mobiles, plus les effectifs parisiens, soit 7500 membres des forces de l'ordre au total, avec un mot d'ordre, être le plus réactif et mobile possible pour endiguer tout acte de violence. Concrètement, au lieu d'avoir des compagnies de CRS ou des escadrons de gendarmes compacts, des dizaines d'hommes en tenue lourde, quasiment statiques au même endroit, il va y avoir une grande mobilité avec notamment des policiers répartis sur 180 motos dans la capitale pour aller très vite disperser les débuts de rassemblements interdits. À l'appui, il y aura également 2 canons à eau et le retour des véhicules blindés de la gendarmerie. Par arrêté, le préfet a interdit toute manifestation dans de vastes périmètres, à commencer par les Champs-Élysées, comme chaque samedi. Or, c'est là que les Gilets jaunes se donnent rendez-vous dès demain matin. L'autre crainte d'affrontement concerne la marche pour le climat et la manifestation contre la réforme des retraites. 2 défilés dans l'après-midi qui pourraient être infiltrés par des éléments radicaux type Black Bloc. Plusieurs centaines d'entre eux seront présents d'après les services de renseignement. Ajoutez à cela les journées du patrimoine, le public nombreux qui vient traditionnellement en visite. Bref, c'est un samedi 21 septembre qui s'annonce tendu, pour le moins, pour les forces de l'ordre.
En effet, Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1, et à la veille de cette journée sensible, Emmanuel Macron a donc lancé ce soir un appel au calme.
Moi, je souhaite qu'elle soit le plus calme possible. Il y a certains de nos concitoyens qui s'exprimeront, essentiellement la journée de samedi, parce qu'il y aura des mobilisations, des manifestations. Et c'est bien que les gens s'expriment. Il y a aujourd'hui, cet après-midi, une mobilisation importante pour le climat. Il y a plusieurs revendications qui se feront samedi. Mais il faut que ça puisse se faire dans le calme. Donc j'appelle chacun à ce que tout ça puisse se faire en bonne intelligence, en concorde et dans le calme.
Le président micro-européen de Claudia Bertram. Aujourd'hui, la jeunesse mondiale s'est-elle mobilisée une nouvelle fois pour la planète à l'appel de la lycéenne suédoise Greta Thunberg. Appel entendu de Sydney à Tokyo, de Barcelone à Berlin, à New York, mais aussi à Paris. Des jeunes appelés à déserter l'école pour manifester. Écoutez le reportage d'Hélène Terzian.
Aujourd'hui, c'est les jeunes. Demain, il faudra que ce soit tout le monde. Tout le monde dans la rue pour le climat, pour changer les États, pour changer les sociétés, pour changer l'esprit des gens, parce que c'est une urgence.
Ils sont plusieurs milliers de collégiens, de lycéens venus demander d'agir pour le climat. Et ce, parfois comme Milan, 14 ans, malgré les réticences de leurs parents.
J'avais une discussion avec ma mère qui n'était pas très chaude pour que j'y aille. Parce qu'elle disait, en soi, je suis d'accord avec toi, mais marcher, ça sert à rien. Et elle a 50 ans et je comprenne qu'à 50 ans, on puisse penser comme ça, mais moi je suis encore jeune et j'ai envie d'y croire que marcher ça va servir à quelque chose. C'est avec des événements mondiaux qu'on peut changer les choses, qu'on sensibilise le plus de gens. À cause du décalage horaire, on a pu voir dans les autres pays ce qui s'était passé, des autres marches, et ça c'est inspirant en fait. Là il se passe un truc.
Il se passe quelque chose grâce à la militante suédoise Greta Thunberg, poursuit-elle, un mouvement auquel Angèle, 13 ans, a tenu à participer, même si son collège lui en a dissuadé.
En fait, moi aujourd'hui j'ai séché parce que je sentais que ma place elle était ici, et je suis très contente d'y être et de continuer à me mobiliser sur ce sujet, et tant que ça change pas, enfin, je continuerai.
Ce n'était pas le cas pour Angèle, mais de nombreux enseignants et proviseurs ont tout de même soutenu leurs élèves grévistes pour le climat.
Le reportage d'Hélène Terzian ce soir, manifestation monstre à New York, cette fois on y attend près d'un million de personnes.
Europe 1, le journal de la nuit, Isabelle Millet.
Merci d'écouter Europe 1, il est 22h05 et c'est la suite de votre journal. On vous parlait hier, ici même, de ce scandale sanitaire, ces essais cliniques illégaux sur des personnes atteintes d'Alzheimer ou de Parkinson, dans une abbaye près de Poitiers, 350 patients concernés. La ministre de la Santé évoque des sanctions. Le professeur Joyeux, à l'origine de ces essais, se défend. Il parle d'études cliniques. Mais Europe 1 vous a révélé ce soir des documents exclusifs qui mettent totalement en doute ces affirmations. Mélanie Gomez, vous avez retrouvé une patiente atteinte d'Alzheimer qui a bien été approchée pour un essai thérapeutique totalement illégal. On lui a même réclamé de l'argent.
Pour cette patiente atteinte d'une forme légère de la maladie de Parkinson, la prise de contact par mail par un certain fonds Josepha a commencé fin 2017. J'ai pu lire ce premier mail et tous ceux qui ont suivi pour tenter de la recruter dans cette expérimentation sauvage. Et je peux vous dire que tous les ingrédients d'une escroquerie scientifique y sont. D'abord, abus de confiance. Ces pseudo-médecins lui promettent sans aucune preuve que leur patch sera miraculeux contre son Parkinson. Ensuite, encore plus fort, on lui explique que pour avoir la chance de participer à cet essai clinique, eh bien, on compte sur sa générosité financière. Tenez-vous bien, il a été demandé aux patients cobayes de verser au minimum 1000 euros chacun, bien sûr plus pour ceux qui le souhaitaient. Alors au final, cet essai a été arrêté par l'agence du médicament qui ne l'avait évidemment jamais autorisé. Les patients qui ont participé à cette expérimentation sauvage ne doivent surtout plus utiliser ces patchs, soi-disant miracles, et consulter un médecin. Par ailleurs, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a elle aussi ce matin condamné fermement ces pratiques et a assuré qu'il y aura des sanctions et même des poursuites.
Les précisions de Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1. 3 mois de prison avec sursis requis contre Jean-Luc Mélenchon pour les incidents qui avaient émaillé la perquisition de son parti il y a près d'un an, ainsi qu'une amende de 8000 euros, mais pas de peine d'inéligibilité. Jean-Luc Mélenchon qui a assuré lui-même sa défense devant les micros et les caméras.
On m'a décrit ainsi que mes camarades comme des gens qui ne respectaient pas la loi, qui avaient provoqué une émeute, une rébellion, blablabla. Eh bien, si nous étions tout ça, il fallait demander notre inéligibilité. Et qu'est-ce qu'on demande à la fin ? De l'argent ! De l'argent, encore de l'argent. Alors normalement, la loi prévoit 10 ans. Bon, eh bien, de 10 ans, il reste 3 mois avec sursis. Franchement, tout se souque pour ça.
Tout se souque pour ça. Chloé Trion, vous avez suivi le réquisitoire et les plaidoiries de la défense cet après-midi. Sans surprise, Chloé, la ligne ne varie pas. Tout cela serait politique.
Plus que jamais, tout est politique pour les 6 prévenus de la France insoumise et pour leurs avocats. Maître Davy, celui de Jean-Luc Mélenchon, explique que le comportement de ce dernier n'était pas un acte de violence, mais un acte de démocratie, un appel à venir constater ce qui se passe, car sa conviction est qu'une perquisition dans un parti politique d'opposition, c'est une chose qui mérite d'être sue et connue de tous. La défense a donc plaidé la relaxe pour tous avant que les prévenus ne reviennent à la barre. Jean-Luc Mélenchon est revenu s'expliquer pour les derniers mots d'usage dans tout procès, l'occasion de fustiger la persécution dont il estime être victime de la part du parquet, la guerre judiciaire, le lawfare devenu un slogan chez ses partisans, de fustiger aussi le pilori médiatique dont il fait l'objet, dit-il, avec 25 heures d'images de cette perquisition diffusée en boucle depuis un an. Je ne suis pas un accusé, je suis un condamné permanent, ironise-t-il. Des explications résumées par une formule, c'est mon boulot de me rebeller, c'est marqué dessus, insoumis. Il a terminé en demandant au tribunal de le relaxer sous les applaudissements de la salle. Remarque du président, on n'est pas dans un meeting des insoumis, on est dans une salle d'audience délibérée, prévue le 9 décembre prochain.
Chloé Triomphe au palais de justice de Bobigny. Une femme de 30 ans, poignardée à mort ce matin chez elle à Maison Lafitte dans les Yvelines. Son mari a été interpellé à Montauban dans le Tarn-et-Garonne. C'est une femme de 39 ans qui est décédée à l'hôpital à la suite de blessures par coup de couteau, vraisemblablement portées également par son mari. On en est à 109 féminicides depuis le début de l'année.
Europe 1, Isabelle Millet.
Il est 22h09 et 5 syndicats de la RATP appellent à une grève, cette fois illimitée à partir du 5 décembre prochain. 5 syndicats, mais pas la CGT. Mobilisation une nouvelle fois contre la réforme des retraites. Mouvement qui pourrait donc durer plusieurs jours. Écoutez Laurent Djebali de l'UNSA.
Il n'y aura pas de bus, il n'y aura pas de métro, il n'y aura pas de RER. Les agents de la maintenance, eh ben, ils arrêteront aussi. Malheureusement, je dis bien malheureusement, si le gouvernement ne répond pas à la demande des salariés aujourd'hui, je peux vous assurer qu'à partir du 5, malheureusement, au niveau du transport en Île-de-France, ça sera très, très, très compliqué. La RATP, c'est pas une entreprise où on a culture de faire grève. On est des professionnels, on sait qu'on doit transporter les voyageurs, on les transporte le mieux possible. Nous, on n'a pas demandé que le gouvernement fasse cette réforme. On n'a pas demandé à être spolié, on n'a pas demandé à être dupé. C'est pas nous le responsable. Le seul responsable aujourd'hui, c'est le gouvernement Macron.
Laurent Djebali de l'UNSA, joint pour Europe 1 par Maude Descamps. La Société Générale envisage 530 suppressions de postes supplémentaires dans son réseau à l'horizon 2023. Un plan qui prévoit que ces postes soient supprimés sans licenciements économiques ni départs contraints. Le PDG d'XL Airways lance un appel pour réunir les 35 millions d'euros nécessaires, selon lui, pour éviter d'abandonner des passagers sur le tarmac et pour faire repartir l'activité de la compagnie qui a été déclarée en cessation de paiement et placée en redressement judiciaire. L'Oréal annonce avoir conclu un accord avec le fisc français, à qui le groupe versera 320 millions d'euros pour résoudre un différend qui concernait le paiement de l'impôt sur les sociétés de 3 de ses filiales. En Irak, ce soir, une attaque a fait 12 morts dans la ville sainte chiite de Kerbala. Une bombe a explosé dans un bus. En Tunisie, le parti islamiste Ennahda annonce qu'il va soutenir l'universitaire Kais Saied, qui est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle, devant l'homme d'affaires Nabil Karoui, qui est actuellement en prison. Le coup d'envoi du mondial de rugby au Japon, c'était aujourd'hui les Japonais qui ont remporté haut la main leur match d'ouverture face à la Russie, 30-10. Les Bleus vont débuter la compétition demain matin par un choc contre l'Argentine à 9h15, heure française. Il va falloir mettre le réveil à sonner tôt demain. Gros enjeu pour les Français après les contre-performances de ces derniers mois. Alors, quelles sont leurs chances? Simon Rubin, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Tokyo.
Parmi les grands joueurs de l'histoire du 15 de France, on n'est pas franchement confiant. Tout le monde le sait, les Bleus ne sont pas favoris pour ce mondial japonais. Malgré cela, les glorieux anciens ont la flamme, l'espoir de voir les Bleus briller comme Thierry Dussautoir, finaliste du mondial en 2011.
C'est un moment fantastique à vivre. Il faut laisser un petit peu de côté ces 4 dernières années qui ont été assez difficiles à jouer, se concentrer sur ce premier match-là qui est une finale avant l'heure.
Les Bleus peuvent le faire, à condition de se sentir soutenus, ajoute Fabien Pelouse, qui fut lui aussi capitaine des Bleus dans les années 90-2000.
Il faut juste être derrière notre équipe de France, la soutenir à fond, parce que la différence entre une équipe qui gagne et une équipe qui perd, elle se joue à des fois des petits riens. Et si chaque joueur sent que derrière lui, en appelant en France pour prendre des nouvelles, il y a un soutien ou une ferveur de tout le monde, ça peut juste peut-être faire la différence. Soyons tous derrière notre équipe de France, soutenons-la à fond.
Alors pour aller au bout du mondial, il faudrait un miracle, que toutes les planètes s'alignent, d'où la conclusion malicieuse de la légende Serge Blanco.
Les Français sont toujours uniques dans tout ce qu'ils savent faire, autant dans la victoire que dans la défaite.
Tous derrière les Bleus, évidemment. Simon Rubin, envoyé spécial d'Europe 1 à Tokyo. Je vous rappelle que dans un peu plus de 5 minutes maintenant, Emmanuel Dutheil sera avec Patrick Houilly, le directeur marketing du Coq Sportif. C'est l'équipementier du 15 de France. Et puis en foot, on suit ce soir en direct un match avancé de Ligue 1. Strasbourg face à Nantes. Patrick Muller, Strasbourg qui est revenu au score.
Effectivement, évolution avec cette égalisation des joueurs alsaciens. Un partout désormais entre Strasbourg et le FC Nantes. On joue la 72e minute dans cette rencontre. Et c'est Dimitri Liénard qui a répondu tout à l'heure à la 65e minute à cette ouverture du score nantaise, intervenue en première période par l'intermédiaire de Koulibaly à la 27e. Dimitri Liénard qui est entré à la pause, ce qui a occasionné un changement de système côté strasbourgeois et ce qui a permis aux Alsaciens de se créer des situations. Dimitri Liénard qui a allumé un pétard, si je puis dire, à l'entrée de la surface de réparation, s'est passé en dessous du ventre du gardien nantais, et donc les Alsaciens qui poussent alors que la première période avait été quasiment 100% nantaise. Les Canaries qui ont été pendant un moment leader provisoire de ce championnat, mais pour l'instant c'est Strasbourg qui pousse dans les derniers instants dans cette rencontre. Il reste moins de 18 minutes à jouer, un partout entre les deux équipes.
Merci beaucoup Patrick Muller au stade de la Méno pour Europe 1. On vous retrouvera un petit peu avant 22h30 pour faire un nouveau point sur cette rencontre. Et puis on évoquait tout à l'heure les journées du patrimoine. Et bien parmi les trésors cachés que vous allez pouvoir découvrir, en tout cas si vous êtes du côté de Paris, figurez-vous qu'il y a un tapis monumental mais pas n'importe quel tapis. Il vient de Notre-Dame de Paris et il ne sort qu'à de très rares occasions. En plus, Diane Chénouda, le miracle, c'est qu'il a échappé à l'incendie.
Ce tapis de chœur de Notre-Dame était roulé dans des caisses près du chœur. Car il ne sort que pour de grandes occasions. Le tapis a donc échappé aux flammes, mais pas à l'eau. Il a été inondé par les tonnes d'eau déversées pour éteindre l'incendie, comme en témoigne Hervé Lemoine, le directeur du Mobilier National.
Il y a eu une course contre la montre, car un tapis de cette taille, en pure laine évidemment, roulé avec de l'humidité, de l'eau, ça peut très vite pourrir. Donc on savait qu'il fallait arriver à le sortir le plus vite possible.
Le tapis a pu être sorti 6 jours après l'incendie et il a fallu des jours pour le faire sécher et même le congeler pour éviter qu'il ne pourrisse. Mais il a été abîmé par l'eau.
Il y a des taches brunes, les couleurs à certains endroits ont un peu bavé en quelque sorte. Il y a d'autres endroits où on a des auréoles. Et puis le fait d'avoir quand même été trempé, puis séché, puis congelé. Donc vous voyez ces pliures, il y a des déchirures aussi.
Il va falloir des mois pour le restaurer dans cette manufacture des Gobelins, là où il avait été créé il y a presque 200 ans.
Merci Diane Chénouda. Et c'est donc au Mobilier National que le public pourra admirer demain ce tapis à l'occasion des Journées du patrimoine. On jette un œil sur la météo avec vous, Anissa Haddadi. Et cette fois, ça commence à sentir l'automne. Ça y est, il est là.
Et oui, c'est ça Isabelle, sur le calendrier, c'est l'automne et bien dans le ciel aussi. Le week-end s'annonce agité sur le sud et l'ouest de la France. Demain, samedi, en Corse, sur tout le littoral méditerranéen, le Languedoc-Roussillon, le Massif central, le ciel sera très nuageux le matin et ces nuages vous apporteront des averses orageuses l'après-midi avec de forts cumuls et du vent d'autant avec des vitesses soutenues jusqu'à 80 km/h. Donc pluie, vent et nuages pour le sud. À l'ouest, en Bretagne, Pays de la Loire, Gironde, Limousin et sur le sud de l'Aquitaine, le temps sera pluvieux avec des averses et des orages là aussi demain après-midi. Demain, c'est en Alsace, dans le nord, sur l'Île-de-France, la Normandie et la Bourgogne que le temps sera le plus ensoleillé avec quelques nuages demain après-midi. Dimanche, il pleut, c'est simple, sur toute la France. Les températures demain seront assez élevées au nord grâce au soleil. 30 degrés à Nevers et à Auxerre, 29 à Paris, 28 à Besançon. Ça sera plus frais dans le sud, forcément, sous la pluie. 24 degrés à Manosque et Montpellier et 22 à Rodez.
La météo signée Anissa Haddadi.
Europe 1.
Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hamaud de Boursier.com, juste avant l'invité d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir à l'occasion du début de la Coupe du Monde de rugby, le directeur marketing du Coq Sportif, Patrick Houilly. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
À 22h18, comme tous les soirs, on s'intéresse sur Europe 1 à la bourse avec vous Didier Hamaud, rédacteur en chef de Boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui termine cette semaine sur une note faible, il y a eu un retournement de situation de dernière minute. Hein.
Ça s'est retourné, oui, effectivement. C'était bien parti, c'est mal arrivé avec un Dow Jones en baisse de 0,59%, 26 934 points. Le Nasdaq, l'indice des valeurs de technologie, perd 0,8%. 8118 points. L'explication, elle est assez simple. La délégation chinoise venue reprendre les négociations commerciales avec les autorités américaines a écourté son séjour aux États-Unis.
Aïe.
Alors oui,
donc
ça,
forcément,
ça fait des ordres. Évidemment, le sujet est très sensible, on le sait. Et selon les informations qui ont filtré ce soir, c'est la question agricole qui a coincé. Alors attention, ce sont des réunions préparatoires avant la reprise officielle des négociations en octobre, mais ce n'est pas bon signe. Et sur les marchés, évidemment, les valeurs exportatrices ont aussitôt baissé. Apple, moins 1,5%, IBM, moins 0,8%, Microsoft, moins 1,2%, Intel, moins 1,6%. Le pétrole aussi s'est un petit peu tassé, $64,60 en léger repli ce soir sur le Brent. Exxon, du coup, redonne 0,3%. Le géant pétrolier revient à $72. Sur les devises, l'euro campe au-dessus des indices. Ça ne bouge pas vraiment. Indice 20 face au dollar.
Et la Bourse de Paris, elle, a battu des records en clôture.
Oui, alors ça peut paraître paradoxal. Un sommet annuel accroché ce soir, 5690 points sur le CAC 40, encore en hausse de 0,56%. Ça monte doucement mais sûrement. Depuis le début de l'année, la progression des valeurs françaises est quand même de 20%. De quoi faire revenir le CAC 40 au plus haut depuis la fin 2007, depuis près de 12 ans. Oui, ça date. Hein. C'était la crise financière à l'époque, le début de la crise de 2008. Donc, Au-delà du soutien permanent des banques centrales, les comptes des entreprises restent bien orientés avec aujourd'hui Alten, plus 4%, le groupe de conseil en haute technologie, dans la foulée de la hausse de 13,5% de son résultat opérationnel, progresse nettement donc ce soir de 4% pour Alten. Korian, là on est dans les maisons de retraite, plus 4% aussi, sur des objectifs encore plus ambitieux affichés à moyen terme par le groupe Korian. À noter Casino qui reprend encore 3,5%, Ubisoft plus 3% ou Total avec le pétrole plus 2,5%.
Et puis il y a quand même une exception, c'est le secteur aéronautique qui n'a pas participé à cette hausse du marché.
Tout le secteur aéronautique effectivement a fait grise mine, on va dire. Il pâtit de la fermeté des cours du pétrole, mais aussi d'éventuelles sanctions américaines dans le cadre de la guerre commerciale internationale. Donc pour l'instant rien de certain, mais c'est sur une anticipation de crainte, on va dire. La bourse est très méfiante et Airbus termine en repli de 4%, Thales moins 1,5%, Safran moins 0,1%. Sur les autres places financières, à Francfort, ça monte de 0,10%, Bruxelles plus 0,9%, Madrid plus 0,5%, Milan est plus prudent, stable, Londres perd 0,16%, toujours sur l'affaire du Brexit évidemment. On rappelle quand même le CAC 40 en hausse au plus haut de l'année de 0,56%, 5 690 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon et bon week-end à vous Didier Amo de Boursier.com. Et c'est l'heure de l'invité éco, Emmanuel Duteil. Vous recevez ce soir le directeur marketing du Coq Sportif.
Bonsoir Patrick Houilly.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur de la marque du Coq Sportif. Alors la Coupe du Monde de rugby s'est ouverte à la mi-journée. Ça se passe bien évidemment au Japon et vous êtes l'équipementier de notre 15 de France. Vous êtes confiant sur la performance du 15 parce que jusque-là ça va quand même pas très fort.
Non, je ne serais pas du même avis. Je pense qu'au contraire, ils ont eu effectivement une période qui était un petit peu difficile et délicate dans l'année qui s'est écoulée. Mais par contre, la préparation physique et les matchs, les warm-up games ont montré qu'ils avaient du caractère. Donc je pense que tout est possible. On sait très bien que c'est dans ces moments-là qu'on écrit les pages d'histoire. Donc il vaut mieux ne pas être attendu et puis arriver avec surprise. Donc on est confiant et on croit en eux surtout.
Alors mettons-nous à rêver si les Bleus l'emportent. Est-ce que contrairement à Nike, vous êtes capable de livrer des maillots si jamais on devait avoir envie d'en acheter en masse?
On espère en tout cas. En tout cas, on a un système industriel de proximité qui nous permettra effectivement de réagir sans nous comparer aux autres parce que chacun a sa place. On sera en mesure de réagir. On a une production qui est très locale, à la fois en France et dans le bassin méditerranéen. Donc on a des capacités pour le faire et ce sera un énorme plaisir.
Alors c'est pour vous un énorme contrat que vous avez signé il y a maintenant une grosse année de cela. J'ai lu qu'il a fallu 8 mois pour imaginer ce maillot. Qu'est-ce qu'il a de spécial ce maillot du Coq Sportif?
Ce maillot a été développé avec la Fédération française de rugby qui est le propriétaire de ce maillot. Nous, on vient au service de cette fédération et au service de l'équipe de France et des équipes de France pour venir donner le meilleur produit possible. Donc on apporte notre savoir-faire, ils apportent leurs idées et on fait fusionner tout ça. Et quand on fait cet exercice, ça prend un petit peu plus de temps parce que c'est une manière assez inhabituelle finalement de fonctionner. Donc on s'est vu souvent. Et effectivement, en plus, devant les caractéristiques techniques du maillot et du climat, l'évolution qu'on voulait donner, l'histoire qu'on voulait raconter derrière ce maillot, puisqu'il est inspiré à la fois de nos archives et du plastron de protection des samouraïs japonais, bah il a fallu un petit peu de temps pour ajuster tout ça aux joueurs.
Ça coûte cher d'être partenaire du 15 de France?
Ça coûte, comme beaucoup de contrats. J'ai envie de dire, même si vous vous doutez bien que je ne peux pas communiquer les chiffres, ils sont toujours confidentiels par contrat, mais ça n'a pas de prix en fait pour le Coq Sportif d'être sur une équipe de France. C'est la place que la marque a eue sur d'ailleurs à peu près toutes les équipes de France que l'histoire a pu compter. Mais pour nous, c'est un symbole qui est extrêmement fort et le fait d'être présent sur un maillot d'une équipe de France qui maintenant participe à cette Coupe du Monde mais qui chaque année a les Six Nations et toutes les compétitions, c'est absolument extraordinaire. Donc c'était quelque chose qu'on avait identifié de longue date comme un des grands projets de la marque et on vient de le passer au même titre que le Tour de France par exemple, qui est un des grands symboles du sport français.
Oui, parce qu'aujourd'hui vous avez le Tour de France, vous avez également les maillots de l'équipe de Saint-Etienne, je crois que vous avez également les maillots de l'équipe de Troyes de football. C'est très différent de faire un maillot pour le rugby versus par exemple un maillot pour le foot?
Alors très non, ça a des caractéristiques différentes. Ça reste deux maillots qui sont quand même proches, ne serait-ce que quand ils sont sur un portant, on ne voit pas forcément fondamentalement toutes les différences. Les vraies différences viennent de la résistance, parce qu'aujourd'hui, il y a des techniques de soudure, par exemple, qu'on peut utiliser sur un maillot de football qui sont totalement inapplicables sur un maillot de rugby, parce que ce sont des colosses. Ils ont une force qui est absolument incroyable. Il faut faire un maillot qui les moule suffisamment et qui empêche les adversaires de les agripper et qui, si ça arrivait quand même, ne se déchire pas. Donc c'est en ça que le produit est très différent et évidemment la notion du sur-mesure parce que grosso modo dans une équipe de foot, on va dire les 11 joueurs sur le terrain font sensiblement le même genre de gabarit. Il y a des plus grands, il y a des plus petits, mais cette différence de physique au rugby, elle est décuplée entre les plus légers, les plus agiles, les plus rapides et les plus costauds. Donc voilà les ajustements qui sont faits. Donc à la fin, ça fait des grosses différences.
Je rappelle, Patrick Houilly, que vous êtes le directeur de la marque du coq sportif. Vous voulez, le coq sportif, redevenir la marque emblématique du sport français. Il y a une quinzaine d'années, vous êtes quasiment passé à deux doigts de la faillite. Quels sont les sports que vous misez? Là, si vous aviez une baguette magique, vous auriez envie d'habiller qui?
C'est une des rares marques qui a commencé à s'exprimer tout de suite dans plusieurs sports, ce qui n'est pas le cas de nos concurrents. En général, ils ont eu un vrai sport de référence pendant de nombreuses années, en fait, avant de s'ouvrir. Le coq n'est pas né de cette manière. Donc, cette liste, on l'avait déjà faite. Dedans, on en a coché quelques-unes. Il y a le Tour de France, évidemment, grand symbole français et international. L'équipe de France de rugby, l'AS Saint-Étienne, ça fait partie des choses qu'on avait cochées. Il y en a encore d'autres. Je ne peux pas forcément tout révéler, mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, on pense que la place naturelle en fait, du coq, elle l'a été pendant une centaine d'années. Hein. C'est encore Maradona en 86 qui lève la Coupe du Monde de football avec un maillot du coq.
Vous discutez avec l'équipe de football d'Argentine?
Non, on ne discute pas avec l'équipe de football d'Argentine. On a encore de très belles choses à faire en France. Il faut retrouver la place qu'on avait sur le marché domestique.
Et justement là-dessus, quelles sont vos forces par rapport à Adidas ou à Nike?
Je dirais qu'aujourd'hui, ce qui va nous différencier, c'est notre identité nationale. Avant tout, on est une marque française et on se rend compte depuis quelques années que ce n'est pas seulement le Made in France, c'est l'identité française rend fier les Français. Et ça n'a pas toujours été le cas. Les marques étrangères ont toujours été très bien accueillies en France. On imagine plus difficilement aux États-Unis une marque française ou allemande sur les équipes nationales, c'est moins naturel. En France, on a beaucoup plus de facilité à accepter tout ça. Donc l'identité est très importante, notre système industriel. Aujourd'hui, 100% de nos matières sont tricotées et teintes en France.
On termine par un petit pronostic. Elle termine combien, l'équipe de France? Elle termine à quelle place?
Elle va aller au bout.
Elle va aller au bout,
En tout cas, je vais pas faire de pronostic de ce type-là, mais je pense qu'elle peut donner de grosses surprises.
Et on va suivre bien évidemment tout cela sur Europe 1. Un grand merci Patrick Houilly, directeur de la marque Le Coq Sportif, était notre invité ce soir. On se retrouve lundi 22h20 sur Europe 1.
Merci beaucoup et à lundi Emmanuel Dutheil. Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant? A tout de suite sur Europe 1. Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. C'est une femme dont on va beaucoup parler dans les prochains jours. Vous connaissez sans doute son nom, Irène Frachon. C'est elle qui a donné l'alerte sur le scandale du Mediator. C'est devenu le combat de sa vie et c'est d'ailleurs le titre de Libération qui affiche son visage en une. Alors que le procès du Mediator, procès monstre, s'ouvre lundi et qu'il n'aurait pas été possible sans la ténacité de cette pneumologue qui est la première à alerter sur les agissements des laboratoires Servier. Les Gilets jaunes sont de retour ce samedi à Paris pour une journée de mobilisation historique. Écrit Laurent Baudin dans l'Alsace. Journée qui, une fois encore, fait craindre le pire dans la capitale. Les appels à l'insurrection et à une nuit des barricades ne présagent rien de bon. Ils confirment un phénomène de radicalisation doublé d'un risque de manipulation en même temps que l'infiltration du mouvement par des extrémistes de tous bords. Ces manifestations à répétition sont un prétexte pour casser et par là même pour s'attaquer aux fondements de la République, écrit le journaliste. Rien de nouveau finalement, dans la mesure où après avoir occupé les ronds-points, les gilets jaunes, qui n'ont pas lâché la partie, tournent en rond. Dans le journal La Montagne, Florence Chédotal revient sur le réquisitoire à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon. Tout se souque pour ça. Il a raison de se poser la question, le leader de la France insoumise, écrit la journaliste, même s'il oublie de se l'appliquer à lui-même. Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu l'histoire d'un gâchis, celui d'un homme politique dont l'intelligence a été surpassée par l'orgueil et par les outrances. La grande inquiétude des défenseurs du patrimoine, c'est le titre du Figaro. Demain, avec toujours plus de visiteurs, les 36e journées du patrimoine se tiennent, vous le savez, ce week-end. On en a parlé tout à l'heure. Dans un climat de tensions sociales et de restrictions économiques, 17 000 lieux vont quand même ouvrir leurs portes. L'an dernier, 12 millions de visites avaient été enregistrées. Preuve de la passion que cet événement automnal provoque chez les Français. Et voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Et on va faire un nouveau détour rapide par le stade de la Méno, retrouver Patrick Muller qui suit pour nous la rencontre entre Strasbourg et Nantes. Et je crois qu'il vient d'avoir un but, Patrick.
Ah, effectivement, changement de physionomie dans cette rencontre et surtout, grosse incidence au tableau d'affichage puisque ce sont désormais les Strasbourgeois qui mènent 2-1. Ce pénalty signé Ludovic Ajor, consécutif à une faute commise sur Bellegarde dans la surface de réparation nantaise. Ce sont pourtant précisément les Nantais qui avaient ouvert la marque en première période par l'intermédiaire de Koulibaly à la 27e. Dimitri Liénard, le milieu de terrain strasbourgeois, avait égalisé à la 65e. Et donc ce pénalty qui permet à Strasbourg de reprendre l'avantage, de remporter peut-être sa première victoire cette saison, alors que jusqu'ici, eh bien Nantes restait sur 3 succès consécutifs et en menant au score, eh bien avait ravi la place de leader provisoire. Mais dans cette deuxième période, eh bien les Strasbourgeois ont complètement inversé le cours de cette rencontre et on entre à l'instant même dans le temps additionnel. Ce sont donc les Alsaciens qui mènent sur leur pelouse 2-1 face aux Nantais.
Merci beaucoup Patrick Muller en direct du stade de la Méno et je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1. Vous êtes en compagnie de Sabine Marin pour votre libre antenne. Bonsoir Sabine.
Bonsoir à vous Isabelle.
Très belle émission à vous. Merci. Et très bon week-end aussi.
Et on se retrouve dans une demi-heure pour les prochaines infos. À tout à l'heure.